RFI Métécomté.
Elle parlera haut et clair.
Radio France Internationale transmite diariamente des 16 às 17 heures.
Radio France Internationale, bonjour.
Poste national français.
C'est un poste à ronde.
Notre programme continue dans les 19 mètres sur 15 minutes.
Du poste colonial à la DAEC, en passant par Paris Mondial et les émissions vers l'étranger.
This is Radio France International.
Radio France Internationale.
Radio France Internationale, le monde entier sur votre fréquence.
Sur Alternante FM, on connaît bien RFI, Radio France Internationale, puisque nous rediffusons tous les jours plusieurs de ces journaux d'information, matin, midi et soir. Aujourd'hui, Alternante propose à ses fidèles auditrices et auditeurs un grand moment d'histoire de la Radio Sans Frontières. Un extrait de « Si RFI m'était compté », 1931-2004, titre d'un coffret de 5 CD publié en 2005 sous la direction de la journaliste Jacqueline Papet. On découvre ici les tout débuts de la radio destinée à ce qui était appelé l'Empire français jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était bien avant Internet et bien avant la FM. La radio était alors diffusée à partir de la France avec une technologie en ondes courtes. Les ondes courtes, un mode de diffusion que seuls les habitants des pays du Sud, d'anciens voyageurs ou quelques amateurs passionnés peuvent encore connaître.
Les voyageurs pour Châteauroux, Limoges, Montauban,
Narbonne,
en voiture.
Ils sont nombreux à se presser ce 6 mai 1931 à Vincennes pour admirer les pavillons de l'exposition coloniale. Le maréchal Lyautey, commissaire général, exulte qu'il a réussi à mener à son terme le gigantesque chantier qui lui était confié 3 ans plus tôt et qui a coûté cher à la France. Mais l'investissement est couronné de succès. 7 mois et demi durant, 8 millions de visiteurs admireront la manifestation éclatante de la suprématie française et de l'intérêt de ses colonies. Des pyramides de produits exotiques, des centaines d'indigènes livrés au regard des Français, des animaux sauvages enfermés dans des cages, des huttes, des maisons. Bref, tout l'habitat des pays asiatiques, africains et océaniens où la France s'est implantée. Mais ce dont Lyautey est le plus fier, c'est le lancement de la radio en ondes courtes qu'il réclame depuis plusieurs années et qui est inaugurée ce jour-là par le président Gaston Doumergue. On l'a baptisé le poste colonial et son indicatif est le chant du coq. Les premières émissions sont réalisées sur les lieux mêmes de l'exposition grâce à un câble de 40 km qui a été tiré depuis Pontoise où les deux premiers émetteurs en ondes courtes, 15 kW chacun, ont été construits. Ces émetteurs doivent permettre de toucher les 100 millions d'habitants de la Grande France par l'utilisation de 3 fréquences, vers l'Asie, vers l'Afrique et vers l'Amérique. Mais comment les ondes courtes peuvent-elles aller aussi loin ? René Sudre est un journaliste scientifique de cette époque.
On appelle ondes courtes, comme vous savez, les ondes qui ont de 13 à 80 mètres de longueur. Les ondes courtes sont des ondes qui se réfléchissent, qui font ricocher constamment entre le ciel et la terre, si j'ose dire, entre ces couches électrisées qui sont à une hauteur de 80 à 250 km. Et ces ondes ricochant ainsi entre le ciel et la terre peuvent aller extrêmement loin.
Le premier directeur de la nouvelle station s'appelle Julien Maigret. Rien à voir avec le célèbre commissaire Jules Maigret, né de la plume de Georges Simenon. Mais lui aussi, c'est un homme de plume, écrivain et journaliste. Il connaît les colonies. Fils d'un général qui a commandé en Afrique, Julien Maigret a vécu lui-même une 15aine d'années au Congo. Il est entouré d'une commission des programmes composée de directeurs des agences économiques. Car les Français expatriés ont besoin pour leurs affaires de connaître les cours de la bourse déjà et celui des matières premières. La culture fait aussi partie du programme. Les auditeurs peuvent entendre des pièces de théâtre jouées par une troupe de comédiens renommés. Louis Seignier est jeune comédien à l'Odéon, il a 28 ans, et il est chargé de conduire la troupe qui, pendant des années, produira chaque semaine une œuvre dramatique. France Berthaud l'avait rencontré en 1990. Louis Seignier avait 87 ans.
Cette troupe a été choisie par Maigret, qui venait d'être nommé directeur de Radio Coloniale, et parmi les troupes qui jouaient à Paris, dans les postes parisiens. Et il m'a choisi, il m'a demandé de venir le voir, nous avons bavardé et il m'a engagé. Et c'est de là qu'est partie nos émissions à Radio Coloniale. Je ne me contentais pas d'avoir la troupe, chaque semaine, j'avais, ou presque chaque semaine, j'avais une grosse vedette de Paris, qui venait jouer son, un des rôles qu'elle avait joué ou qu'elle jouait. Par exemple, Bruno, André Bruno, cher André Bruno, venait jouer Cyrano. Madame, j'ai eu Madame Simone, et puis j'ai eu Vera Servine pour une pièce de Rostand.
Une prestation pourtant difficile pour les comédiens qui doivent rejouer la pièce en direct trois fois en raison des fuseaux horaires entre les différentes colonies. L'après-midi pour l'Asie, en début de soirée pour l'Afrique et le soir, plus tard, vers l'Amérique et l'Océanie. Il en est de même pour les 40 musiciens de l'orchestre du poste colonial. Cet orchestre est dirigé par un compositeur de talent, Grand Prix de Rome, Henri Tomasi, dont nous parle Louis Seignier.
Un très bon ami. On a fait énormément de choses ensemble. Il avait formé un orchestre qui appartenait à la station. Je m'en servais pour accompagner des tas de pièces qui avaient besoin de l'orchestre. Je fais des spectacles, énormément de spectacles avec lui et comme chef d'orchestre. Il faisait des concerts en direct aussi. Il appartenait également à Radio Coloniale. Il était engagé par M. Maigret. Nous faisions partie des engagés de Radio Coloniale de l'époque.
À la fin de décembre 1931, la petite équipe du poste colonial s'installe boulevard Haussmann et ses studios restent éclairés toute la nuit. Des séquences en anglais et en espagnol sont diffusées. Se côtoient journalistes, reporters et speakers. Julien Maigret y tient. Pour être bien entendu, il faut articuler, parler lentement et de façon la plus neutre possible. Charles Basson-Pierre, alias Pierre Basse, est l'un des speakers du poste colonial.
Parler des speakers en bien ou en mal, c'est toujours attirer l'attention du public sur un métier souvent très difficile, parfois ingrat et dont on ne connaît pas toujours la réalité. Les speakers qui sont en activité depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans, sont des gens qui professent, qui par conséquent font des progrès en professant, d'une part, mais qui également se livrent continuellement à un travail personnel. Et je vous assure que les speakers en activité lisent tous les livres de phonétique, connaissent le Martinon, connaissent les dictionnaires de Furtière, et même s'occupent de phoniatrie, et je citerai les ouvrages publiés par le docteur Garde, qui nous intéressent énormément sur le placement de la voix, sur le timbre. Nous cherchons à nous améliorer le plus possible.
Pendant ce temps, le service public de radiodiffusion s'étend. Le puissant ministère des PTT contrôle dorénavant 14 stations. Et pour survenir à leurs besoins, il est institué le 31 mai 1933 une redevance pour droit d'usage des récepteurs radio et une taxe sur les lampes de réception destinées à la vente en France. Si la seconde a disparu avec les lampes, la redevance finance aujourd'hui encore l'audiovisuel public. Mais très rapidement, le poste colonial va devoir faire évoluer ses programmes, car l'histoire s'accélère, comme nous le rappelle Jean-Pascal Guillot.
Hors de France, en effet, les périls montent aux frontières. Hitler devient chancelier d'Allemagne le 30 janvier de cette année 1933, et trois mois plus tard, sur les conseils de son ministre de la propagande, Goebbels, l'Allemagne lance ses premières émissions en allemand vers l'Europe, l'Amérique du Sud et les États-Unis. La radio devient un redoutable outil de propagande pour les États totalitaires. Rome, Berlin et Moscou s'engagent dans une course à la puissance radiophonique. En 1935, l'Allemagne inonde le monde entier de ses idées racistes en 30 langues. La radio de Benito Mussolini diffuse en grec, en albanais, en bulgare, en roumain, en croate et en arabe. Quant à l'Union soviétique, elle domine largement les autres avec une puissance totale de 1650 kW et 65 langues parlées. La Chine lance cette année-là ses premières émissions ondes courtes vers le vieux continent et l'Amérique du Nord. Le Japon va faire de même. En face, les États démocratiques sont prêts techniquement, mais ils n'ont pas encore conscience de l'enjeu de la guerre des ondes. La BBC a lancé ses premières émissions en ondes courtes en décembre 1932 à destination des colonies et dominions britanniques, mais elle a attendu janvier 1938 pour parler en arabe, en espagnol et en portugais, puis avril pour émettre en français, allemand et italien. Entre-temps, le 11 mars 1938, Hitler a envahi l'Autriche.
À Paris, cependant, Georges Mandel reconsidère les objectifs du post-colonial et il comprend que la cible principale ne doit plus être limitée aux seuls expatriés. Il faut, pense-t-il, faire entendre la voix de la France vers des pays désinformés et s'adresser surtout aux cibles choisies dans leur langue. Cette année-là verra le lancement de séquences en arabe, italien, portugais et allemand. Ici, un speaker allemand donne aux auditeurs les fréquences.
Yes, Paris. Yes, Paris. Französischer Rundfunk in deutscher Sprache. Frankreich spricht zum deutschen Volk. Wir senden jeden Tag von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr auf Kurzwelle.
Les émissions sont diffusées 24 heures sur 24. Mandel fait voter par le Parlement en décembre 1935 un projet de construction d'un centre ondes courtes digne de la France. 6 émetteurs de 100 kW et il choisit pour des raisons de sécurité l'Indre au centre du pays pour les installer. Les travaux commencent assez rapidement. Mais bientôt, les troupes allemandes réoccupent la Rhénanie. Pour éclairer la population allemande sur ce qui lui est caché, Georges Mandel, ministre des PTT, ordonne l'insertion 4 fois par jour sur les antennes de Radio Strasbourg, en ondes moyennes, d'une séquence en allemand de 15 minutes, composée d'extraits traduits du journal de cette radio.
Quel beau dimanche que celui-là, ma tête est blanche, tu prends mon bras, tu sais me dire dans un sourire les mots que je désire.
2 mois plus tard, ce lundi 4 mai 1936, le Front populaire emporte la majorité aux élections législatives. Au mois d'avril, le gouvernement de Léon Blum entre en fonction. Georges Mandel quitte son poste. Entraîné dans le tourbillon des réformes sociales réclamées par le peuple de France, la radio extérieure n'est plus un objectif prioritaire. Et le nouveau ministre des PTT, Robert Jardillet, abandonne la construction du centre d'ondes courtes de Noyant dans l'Indre. Mais devant le rappel à l'ordre d'un grand nombre de parlementaires sur le rôle que doit jouer la France, le ministre des PTT doit concéder l'installation prochaine d'un nouvel émetteur aux Essert-le-Roi, une petite commune des Yvelines, non loin de Paris.
Quant au poste colonial, dont l'importance ne saurait être niée par aucun de ceux qui ont le légitime souci de notre rayonnement, 2 ensembles émetteurs en cours d'installation vont être complétés par 3 autres postes, car il faut, n'est-il pas vrai, que soit assuré de manière indépendante un rayonnement efficace dans les 5 fuseaux correspondent aux grandes zones mondiales à l'intérieur desquelles doit s'exercer le rayonnement français.
La guerre d'Espagne a commencé à déchirer le pays. Le poste colonial décide d'augmenter les nouvelles en espagnol dès avril 1937 et il lance des journaux en japonais, en russe, en grec, en roumain, en serbo-croate, en polonais et en langue scandinave. Parallèlement, les travaux se poursuivent aux Essert-le-Roi et le nouvel émetteur de 25 kW, on est bien loin du plan de Georges Mandel, est inauguré ce 23 mars 1938. Exit le poste colonial. Bonjour, Paris Ondes Courtes, c'est le nouveau nom de la radio. Jean-Baptiste Lebas, le ministre des PTT de l'époque, souligne le message de paix que doit relayer la radio de la France.
La République française possède aujourd'hui un merveilleux instrument qui va lui permettre d'informer exactement les peuples, si éloignés soient-ils, sur sa politique internationale, c'est-à-dire sur sa ferme volonté de paix traduite en actes. Grâce à notre poste des Essarts, nous allons enfin pouvoir parler aux populations nord-africaines le langage de la raison, de la justice et de l'humanité, dont l'effet certain sera de rendre plus étroits encore les liens qui les unissent au peuple français. C'est dire que le nouveau poste de radiodiffusion permettra au gouvernement de la République de porter sa bonne et salutaire propagande dans le monde pour mieux faire connaître et mieux aimer la France et grouper autour d'elle toutes les forces de paix.
Une semaine plus tard, la radio change une nouvelle fois de nom pour devenir Paris Mondial. Un nouveau directeur est nommé à la tête de la radio. Jean Fraisse fut le secrétaire particulier d'Albert Sarraut, qui fut ministre pendant 20 ans, ce qui fait dire à certains qu'il s'agit là d'une nomination politique. Mais nous sommes à quelques mois de l'entrée en guerre de l'Allemagne nazie. Trois émissions en langue attirent toutes les attentions. La section allemande est dirigée par Pascal Copeau, germaniste distingué, et qui recrute des Allemands, juifs, réfugiés en France. La rédaction italienne est sous la responsabilité d'Emmanuel Modigliani, le frère aîné du peintre, grand avocat antifasciste. Et enfin, Christian Ozanne s'occupe de l'équipe espagnole, dont le gros de la troupe est constitué de républicains ayant fui le franquisme. Tous travaillent sans relâche alors que le drame se profile à l'horizon.
Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. 48 heures plus tard, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au chancelier Hitler. Après un drôle de premier hiver, les chars allemands pénètrent en France. Mais la bataille sera de courte durée. Le 17 juin, le maréchal Pétain annonce à la radio qu'il faut cesser le combat. Le 18 juin, le général de Gaulle appelle de Londres à la résistance. La guerre des ondes va accompagner les combats qui déchirent l'Europe. La BBC s'apprête à jouer un rôle essentiel, l'historien Jean-Louis Crémieux-Briac.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français.
Cette radio de Londres a acquis progressivement une influence considérable parce que c'était l'espérance. Et d'autre part, elle a créé un style, un ton, avec une équipe très très brillante de gens qui n'étaient pas du tout des professionnels, qui étaient des amateurs, mais qui ont inventé, en s'inspirant beaucoup du style des radios privées d'avant-guerre, quelque chose de très vivant, destiné à attirer les Français, non pas seulement par de grands discours patriotiques et des conférences, mais aussi par une alternance de sketchs, de slogans, de récits, de dialogues, une radio très parlée, très vivante. Pendant plusieurs mois, on ne savait pas si cette radio était écoutée. C'est seulement à partir de décembre 40, janvier 41, qu'on a commencé à recevoir à Londres des lettres et qu'on a découvert qu'elle était occupée. Et alors, à partir de ce moment-là, la radio française de Londres, qui a multiplié ses fréquences et ses longueurs d'onde, est devenue une concurrente sérieuse de Radio Paris et de Radio Vichy, a engagé le combat ouvertement, quelquefois en dialogue direct avec les orateurs de Radio Paris. Et d'autre part, elle est devenue une arme de combat, c'est-à-dire une arme tactique qui a organisé des manifestations, la campagne des V, faite partout des V, chanter V, V comme victoire, et les instructions données progressivement d'insurrection, de soulèvement national échelonné par région, et cela jusqu'à la libération de Paris, qui a pu être suivi et rediffusé de façon extraordinaire par la BBC de Londres, relayant les émissions clandestines faites à Paris par Crenès et la petite équipe parisienne.
1939-1945, la guerre des ondes.
Installé au ministère des Transmissions, avenue de Ségur à Paris, Paris Mondial poursuit ses programmes en français et en langues étrangères sous la férule de Pascal Copeau. Depuis plusieurs mois déjà, la guerre des ondes fait rage. L'Allemagne nazie a compris toute l'importance de ce média et la station de Stuttgart, comme Radio Berlin, arrose la France et ses colonies de ses émissions de propagande.
Paris sera toujours Paris, la plus belle.
Le gouvernement français comprend qu'il faut répliquer et il décide de placer tous les services de la radiodiffusion sous l'autorité directe d'un commissaire général à l'information. Jean Giraudoux, grand écrivain, dramaturge, mais piètre communicant et dont la voix monocorde ne bouleverse pas les auditeurs. Dans cet extrait, Jean Giraudoux s'inquiète de l'emprise des radios des ennemis de la France.
Alors que la guerre s'amorce sur nos frontières, toutes ces voix sont déjà admises dans vos maisons, résonnent dans vos cercles d'amis et de famille et se précipitent dans tout chemin libre des ondes longues ou courtes pour couvrir non seulement les voix des postes de notre nation, mais jusqu'à vos voix intérieures. À vouloir vous couper le contact avec elle, nous retomberions dans ce régime de silence et de mutisme dont je vous répète que nous ne serons jamais complices et qui contribue beaucoup plus à rendre une opinion publique soupçonneuse et irritable qu'à la calmer. Le seul moyen, le seul efficace et digne, est de vous confier à vous-même cette défense de notre information. C'est à vous de vous méfier, à vous d'éclaircir ce langage qui afflue, de distinguer ce qui vient de nos postes pour les croire, des postes neutres pour les interpréter, des postes ennemis pour les démasquer. La soudaineté des interventions étrangères ne nous permet pas toujours de vous en avertir. Renseignez-vous de votre calme et de votre prudence devant ces voix ennemies, de votre intelligence à les distinguer des autres, de votre souci de ne pas les propager sans discernement, dépend le calme du pays, c'est-à-dire son salut.
Mais les événements se précipitent. Le 30 août 1939, quelques heures avant l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, Samy Simon, radio-reporteur, comme on disait alors, présente sa dernière émission. C'est un concert, Toscanini-Horowitz, tout un symbole. Le beau-père arien, chef d'orchestre, et le gendre, célèbre pianiste, juif d'Europe de l'Est. La soirée se passe à Lucerne, en Suisse. Le monde entier s'y est donné rendez-vous. Les Allemands sont absents. Mais les liaisons entre les différentes radios qui retransmettent le concert passent toujours par Berlin. Écoutez ce dialogue, c'est le dernier du genre.
Hallo Berlin, hallo Berlin, ich sende euch Musik für Prag.
Danke, aber hallo.
Hallo Bern.
Ja?
Wir sind bereit. Können Sie die Modulation bekommen?
Sofort.
Hallo Bern.
Was?
Haben Sie Minuten für den Weber, bevor Sie starten?
Between 20 and 25 minutes.
Okay, fine.
Allô Paris?
Oui.
Est-ce que c'était bon?
Très bon.
Parfait.
Adolf Hitler entre en Pologne le lendemain, 1er septembre 1939. 48 heures plus tard, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Les émissions en langues étrangères déménagent au ministère des Transmissions, avenue de Ségur, dans un immeuble sous haute surveillance. Les studios installés dans le sous-sol sont à l'abri des bombardements. L'ambassadeur de Pologne vient s'adresser aux Polonais, toutes les liaisons terrestres étant coupées avec Varsovie. Mais il faut ruser pour ne pas être immédiatement brouillé. À la rédaction en langue allemande, des écrivains, des personnalités politiques, le cinéaste Max Ophüls, l'actrice française Françoise Rosé prennent le micro pour dénoncer les atrocités nazies. Début 1940, la BBC émet en 16 langues et Paris Mondial en 20 langues. Allemand, anglais, arabe, bulgare, danois, espagnol, grec, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, slovaque, suédois, tchèque et turc. Ces émissions sont diffusées sur une trentaine d'autres radios, mais plus pour très longtemps. Le 10 mai 1940, l'armée allemande entre en France. À Paris, c'est l'affolement. Georges Mandel, devenu ministre de l'Intérieur, n'a de cesse de dénoncer les ennemis de l'Intérieur. Et il fait arrêter tous les Allemands, y compris les antifascistes, de la section de Pascal Copeau, qui ayant rejoint l'armée, ne peut rien faire. La bataille de France est rapidement perdue. Le 10 juin, le gouvernement quitte Paris. La veille, le personnel étranger de la radiodiffusion a été invité à déménager. Direction Tours, Poitiers et Toulouse, d'où Paris Mondial continuera de diffuser ses programmes pendant une courte semaine. Le 17 juin, c'est sa dernière émission. Sur les ondes françaises, le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser le combat.
C'est le cœur serré
que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Le lendemain, à Londres, le général Charles de Gaulle refuse la capitulation et appelle à poursuivre la bataille. Son discours n'est pas enregistré, mais il renouvelle son appel sur les ondes de la BBC. C'est le 22 juin.
Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
En 48 heures, la radio est devenue un enjeu stratégique et idéologique de première importance. Instrument de résistance pour les uns, elle sera pendant 4 ans le moyen de désinformation pour les autres. La radio va jouer un rôle essentiel dans le refus de l'occupation par un certain nombre de Français et la prise du maquis par les plus résistants d'entre eux.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ? Oui, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
L'armistice est signé le 22 juin 1940. Le gouvernement français s'est installé à Vichy. La France est coupée en deux. Plus aucune émission ne part au-delà des frontières de l'Hexagone. En zone occupée, Radio Paris poursuit ses émissions. Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, comme le clame Pierre Dac sur la BBC. Dans le sud, le gouvernement du maréchal Pétain décide d'utiliser les ondes courtes pour resserrer les liens avec l'Empire. L'Empire, c'est encore la preuve de la grandeur de la France. Très vite cependant, la Voix de la France va étendre ses émissions aux pays arabes, à l'Espagne, au Portugal, à l'Amérique latine, au continent nord-américain et même à la Roumanie. Firmin Rose, rédacteur en chef de La Voix de la France.
Ce qui m'a été demandé, comme à tous les collaborateurs de La Voix de la France, c'est de faire entendre cette voix au-delà des mers, dans tous les pays où il y a des Français, qu'ils soient de la métropole ou de l'Empire, de la faire entendre aussi aux fils de cet Empire, quelle que soit leur race et leur nationalité, africains ou asiatiques. De la faire entendre enfin à ces populations de langue française qui, sur les continents ou dans des îles, appartiennent à d'autres patries, mais par suite de circonstances historiques, ont parlé et continuent de parler le même langage que nous. Canadiens, franco-américains, acadiens ou louisianais de l'Amérique du Nord, citoyens de la République de Haïti ou habitants de l'île Maurice, d'autres encore.
En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre en riposte au débarquement des Alliés en Afrique du Nord. L'Empire, la grande cause de Vichy, n'est plus sous son contrôle. De plus, le gouvernement pétainiste ne peut plus utiliser les relais d'Alger et de Rabat. Pour compenser cette perte, il décide de créer en janvier 1943 un nouveau service pour le Maghreb, la France fidèle, tout un symbole, qui émet en français et en arabe. Voici l'extrait d'une émission enregistrée en décembre 1943, destinée à souhaiter un bon Noël aux coloniaux d'Afrique du Nord.
Comme la Corse, l'Algérie est un morceau de la patrie séparée du continent par quelques vagues. Et l'Afrique du Nord qu'on veut nous arracher, mais ce serait nous arracher le cœur de la poitrine. L'Afrique du Nord, c'est la partie de l'Empire la plus éloquente au cœur des Français, la plus proche, la plus tangible, la plus familière.
Chacun d'entre nous y a une partie de son âme, un morceau de sa chair, un membre de sa tribu. Je pense encore à nos compatriotes de Corse, privés de toute communication avec le continent et qui souffrent des atteintes de mal politique qui déjà les rongent.
Et moi, je voudrais dire à tous nos auditeurs, à tous ceux dont les territoires sont occupés par des troupes étrangères, que nous qui ne sommes pas heureux non plus, nous pensons à eux et nous les aimons.
Je veux leur dire que nous avons au cœur une immense espérance.
Et que cette espérance repose sur le passé de notre maréchal.
Je veux leur dire, nous qui voyons à chaque instant Pétain, le chef légitime de tous les Français, nous l'aimons, nous l'admirons et nous savons qu'il sauvera la patrie.
plus tard, un troisième programme en ondes courtes est mis sur pied, la France musulmane, en arabe et en dialecte berbère. Il est directement rattaché au ministère de l'Information et de la Propagande, Philippe Henriot. Ce service fonctionnera 5 mois, pas plus, jusqu'à l'arrivée dans la nuit du 25 au 26 août à Vichy des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Quelques heures plus tard, la radiodiffusion nationale s'arrête complètement. Les émissions en ondes courtes avaient-elles cessé d'émettre le 17 août, après que les Allemands eurent fait sauter les émetteurs d'Alouis en remontant sur Paris? Voilà pour l'histoire de la radio côté France vichysoise. Mais en face, la France libre a su assez rapidement se faire entendre. À Londres, l'émission offerte par la BBC, Les Français parlent aux Français, est le programme le mieux informé sur ce qui se passe en France et dans le maquis. Mais ces émissions sont souvent brouillées.
Ici Londres. Voici votre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Se promène sur l'horizon 2 fois. Le Père Noël visitera ses amis de la campagne tous les 3 jours.
À Alger, de l'autre côté de la Méditerranée, plusieurs fréquences sont utilisées par les résistants. Et surtout, depuis septembre 1940, Radio Brazzaville fonctionne en ondes courtes, grâce à un homme, Philippe Desjardins. Ancien responsable de Paris Mondial, il a rejoint Londres dès juin 1940 et s'est engagé dans l'armée de la France libre. Après l'échec de l'expédition sur Dakar, Philippe Desjardins se retrouve à Brazzaville et il a l'idée de bidouiller avec son demi-frère un émetteur qui va fonctionner. Pas parfaitement, mais suffisamment en tout cas pour prouver l'intérêt de la station et justifier que les Américains envoient en pièces détachées un nouvel émetteur puissant. Le 18 juin 1943, le directeur de Radio Brazzaville accueille le général de Gaulle pour l'inauguration de l'émetteur.
Au moment où nous inaugurons ici, à Brazzaville, un nouvel émetteur de grande puissance, notre première pensée va à la France, à ceux qui souffrent et qui résistent, à ceux qui n'ont jamais désespéré, à nos vaillantes armées et à leurs chefs. C'est pour la France, pour sa libération, pour son rayonnement, que nous avons conçu et construit cet instrument, le poste de radiodiffusion de Brazzaville, le plus puissant des émetteurs français libres, tente aujourd'hui le nom de poste national français. Brazzaville, première capitale de la France libre, restera, avec cet émetteur, à l'avant-garde de la lutte pour la libération de la France. Le poste national français de Brazzaville vous parle.
Radio Brazzaville, poste national français à vocation internationale, diffusera 15 heures d'émissions quotidiennes pendant un an. Le général de Gaulle se réjouit de ce que la voix de la France libre soit enfin entendue.
Voici que la voix libre de Brazzaville devient soudain plus forte et plus claire dans la capitale désormais légendaire de notre Afrique équatoriale où n'a jamais flotté qu'un seul drapeau, notre drapeau. La France qui combat va se faire entendre sans entrave, mais non sans mesure, beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Cette voix désormais puissante, les Français et les Françaises, comme aussi des hommes innombrables dans toutes les parties du monde, pourront l'entendre et l'écouteront. Elle parlera haut et clair pour informer les esprits et pour encourager les âmes, jusqu'au jour où, s'accordant à toutes les ondes de l'univers, elle criera la victoire des Nations Unies et la gloire insigne de la France.
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La bataille se poursuit sur le sol français jusqu'à la libération totale du pays. Le 2 novembre 1944, à Londres, l'équipe de l'émission Les Français parlent aux Français fit ses adieux aux auditeurs. La guerre des ondes est terminée.
À
Ainsi se termine notre émission. Vous pouvez retrouver la suite de l'histoire dans le coffret de 5 CD intitulé « Si RFIM était compté, 1931-2004 », publié par RFI en 2005, réalisé et commenté par Jacqueline Papet. Vous êtes bien sur Radio Alternante, en FM ou sur Internet.